car les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les crédences petites bourgeoises de la bonne santé.
Tu cherches un
Un emploi de chanteur d'opéra.
Chanteur d'opéra, c'est une belle profession et tu es intéressé par l'opéra?
Non, pas vraiment, non.
Non, par le chant, que tu sais chanter?
Non plus, non.
Non, tu connais les autres tu... Non,
non, non, non, non.
Mais que diable, les différences de galère!
Ça fait raison, mais hâtez-vous!
Tu avais dit quoi l'autre problème?
Cela est vrai, mais faites promptement, vous dites galère!
Alors, cette galère me tient au cœur.
Une histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous sera contée en musique et par les instruments de l'orchestre.
Bonjour et bienvenue dans votre numéro du mois de janvier 2020 de Scène de Vie, Vite Scène, l'émission coproduite entre Principe Actif et le Tangramme, une émission qui prendra une fois de plus le temps pour parler et de spectacles vivants notamment. Bonjour Cécile, bonjour Nathalie.
Bonjour JC.
Bonjour JC.
Eh bien, sur cette émission du mois de janvier, que nous attend-il? Eh bien, nous recevrons le directeur délégué aux musiques actuelles.
Tout à fait, Alban Legrand se joindra à nous pour cette première émission de l'an 20. Voilà, on parlera avec lui un petit peu de l'actualité du Tangramme, de la salle du Cube du Tangramme et des résidences, notamment des résidences d'artistes.
Nous parlerons aussi de l'homme à tête de chou.
Oui, nous avons eu au téléphone juste avant l'émission Jean-Claude Galota, chorégraphe et créateur du spectacle L'homme à tête de chou, inspiré évidemment de l'œuvre de Gainsbourg et chanté par Bachung.
Nous parlerons également Amazon.
Oui, forcément, le rendez-vous annuel, le rendez-vous de la saison approche, la fête de la soupe qui aura lieu cette année le 31 janvier. Donc on vous présentera les artistes qui seront sur scène pour cette soirée.
Bien entendu, vous retrouverez notre agenda non exhaustif de ce qui a attiré notre attention sur ce mois de janvier. Et puis nous terminerons avec une tradition. C'est vrai qu'on commence et puis on finit toujours par des espèces de repères, de traditions. À savoir, sur cette fin d'émission, nous aurons un extrait de film.
Oui, et juste pour vous dire, parce qu'on vous laisse toujours la surprise de la fin. Eh bien, c'est honneur est fait aux femmes avec notre choix de film. Voilà.
Et nous commençons par une autre de nos traditions, un son.
Une femme, de rouge vêtue, passant dans le jardin. Des hommes nettoient le sol, couvert de feuilles, couleur d'automne. L'instant d'une vie riche, demain sera encore là, avec ses moments précieux.
Alors, JC, où as-tu donc laissé traîner le micro, ou quelqu'un d'autre a-t-il laissé traîner son micro quelque part?
Ben oui, tu as la réponse dans la question. C'est donc quelqu'un qui a laissé traîner son micro. Alors, pour tout dire, c'est le micro de Frédéric Grimaud, photographe ébroïcien, auteur de nombreuses expositions, de nombreuses photographies. Voilà,
oui.
Il a sa patte, quoi.
Oui, oui, puis même de recherche artistique. Voilà, c'est un...
Alors
des secteurs de projet.
On connaît bien ça de Frédéric Grimaud. Il réalise aussi des documentaires. Ça, on le voit peut-être un petit peu moins. Nous, on a eu l'occasion de voir plusieurs d'œuvres multimédia, de documentaires réalisés par Frédéric Grimaud. Et donc ça, c'en est un réalisé par Frédéric Grimaud. Donc c'est un court extrait. Ça s'appelle. Alors c'est autour du dispositif 1-2-3 Partez, qui est un dispositif d'insertion sociale sur lequel Frédéric a fait 4 à 5 mois de reportage. Donc le reportage est bouclé, c'était une commande du département de l'Eure. Ça sortira dans très très peu de temps. On va vous laisser un peu en haleine, en attente. On aura l'occasion de vous en reparler pour que vous puissiez accéder du coup au documentaire de 24 minutes intégralement. Avec, alors là, c'était un extrait de l'atelier d'écriture où des personnes ont lu le fruit de leur travail d'atelier d'écriture. Il y en a d'autres dans ce documentaire. Il y a des témoignages, il y a des explications, il y a tout un tas de choses. On a eu la chance, nous, d'en voir quasi une bonne partie. Et forcément, ça fait partie des reportages que nous trouvons, des documentaires que nous trouvons importants à partager. Donc, vous aurez l'occasion d'en entendre parler très prochainement. Voilà, c'était un petit focus. Et là, c'était le texte d'une habitante lambda hébroïcienne qui a écrit dans le cadre d'un atelier d'écriture. Et c'est ça que nous venons d'entendre. Voilà.
Eh bien, merci. On attendra le micro, on sera fidèle à la radio pour écouter la diffusion.
Tout à fait, et puis il sera reçu en matinale très prochainement également pour parler un petit peu de la démarche et du fonctionnement. Alors forcément, j'ai pas la date, mais vous pouvez retrouver ça sur notre Facebook, celui de Principe Actif par exemple, si vous voulez savoir quand est-ce que ça sort. Tenez-vous un peu au courant, et puis vous allez voir, on les annonce toujours, ces rencontres de matinale. Alors là, on a teasé comme il faut.
Ah bah, carrément.
Alors là. Vous l'aurez compris, ça nous a touchés et on espère que ça vous touchera.
C'est sûr.
On passe sur notre toute première pause musicale. Alors, c'était un choix de qui d'ailleurs ?
De Nat, je crois.
Oui, ouais, oui. Là, je suis tombée sur un chanteur, un groupe de rap hip-hop américain, Nola Is Calling. Je trouvais qu'il était intéressant le traitement vocal, justement. Du rap là sur ce morceau, donc je vous propose Downtown de Nola Is Calling.
Nola Is Calling. What? Downtown. Downtown.
I go.
Downtown.
I go.
That downtown religion. Send your spies, send your flag, I won't get mad. I do the jungle boogie on the overpass. Talk to my mother and told my wife I'm coming that morning because my life. Downtown, downtown, downtown. That's downtown religion. Downtown religion. Downtown religion. Downtown religion. Downtown religion. Morning to the ring, ring, ring. Peeped out my window, saw the same old thing. Crayon, lodge on, that's how I feel. Known a Mardi Gras morning, I play for real. We don't ball, no trouble, we'll kill him dead. Got a spy that morning, snatch his crown off his head. Lord have mercy, that's what I said. Be the pretty big chief on the holiday. Send your spies, send your flag, I won't get mad. I do the jungle boogie on the overpass. Talk to my mother and told my wife I'm coming that morning because my life's in that downtown, downtown, downtown. That downtown religion, downtown religion.
Senti qu'à lever l'esprit, moi. Non, c'est, mon pas tout seul. Downtown,
downtown,
downtown.
Downtown religion.
Downtown religion.
Downtown religion. You could let them come on a Mardi Gras morning, nobody run. Said I'm chief that morning from the SEV. And if you don't mess with the seven, you don't mess with me. Giacomo Healy, you could let them come. Crying like you don't nobody run. Talk about trouble, they don't know why. And if they shoot the wrong signal, somebody might die. Send your spies, send your flag, I won't get mad. I threw the jungle boogie on the overpass. Talk to my mother and told my wife I'm coming that morning because my life. See that downtown, downtown, downtown,
I go
downtown religion.
I go, I go, I go.
Et voilà, Nola is calling avec Downtown. À écouter hein, sur les bons réseaux, je vous le conseille.
Mais voilà, mais ça se retrouve assez simplement.
Tout à fait.
Dans cette émission, nous avions promis que nous parlerions de l'homme à tête de chou. En quelques mots, qui avons-nous reçu, pourquoi, comment? Un petit lancement, Nathalie.
Eh oui, bien sûr, bon, avec plaisir. Ben en fait, 2020,
c'est toi qui as fait l'échange.
Voilà.
Donc, tu es la mieux placée pour lancer.
Et oui. Et pas égarger aussi, mais ça, c'est dans d'autres conditions.
Très bien. Ça, on attendra ça pour la fête de la soupe.
Exactement. Le 31 janvier. Ça arrive vite. Alors.
Elle a déjà préparé sa tenue.
Je vous dis rien. On n'a pas le Facebook Live en direct des studios, mais bon. Alors, Jean-Claude Galotta, j'ai interviewé Jean-Claude Galotta juste avant le lancement de l'émission, qui est le chorégraphe et le directeur de la compagnie Émile Dubois, qui a donc créé ce spectacle, L'homme à tête de chou, qui est une vraie version dansée de L'homme à la tête de chou de Gainsbourg, qui est cette œuvre poétique, cette histoire de Marie-Lou, l'histoire de cette femme qui représente la liberté de la femme à l'époque. Hein. Quand même, il y a tout un travail et un vrai propos, une vraie profondeur sur la condition de la femme par Gainsbourg à l'époque. L'histoire, c'est que cette œuvre de Gainsbourg a été reprise en chanson par Bachung et Galotta en a fait un spectacle de danse. Et au départ, il va vous expliquer Gainsbourg. Évidemment, c'est un hommage à ces deux hommes emblématiques, hein, Gainsbourg et Bachung, qui devaient à la création être présents, participer, chanter en live. Évidemment, il y a 10 ans, ils disparaissaient, mais sa présence reste intacte.
Jean-Claude Galotta aussi, que nos auditeurs hébroïciens connaissent, ou en tout cas ce nom ne leur est pas inconnu, parce que il a souvent été accueilli ici à Évreux, et notamment une de ses dernières venues, c'était Nat sous la halle du marché de la Madeleine, hein, c'est ça, avec My Rock.
Avec My Rock, tout à fait. Bah d'ailleurs, et c'est un souvenir qu'il a gardé en tête, et on en parle justement au lancement de l'interview.
On est très contents de vous retrouver à la scène nationale.
Oui, c'est super. Nous aussi, on a des bons souvenirs.
Oui.
Voilà.
Oui, moi, notamment, j'ai le souvenir de My Rock sous la halle de la Madeleine, qui a été un moment fort pour
et l'équipe et le public. Je me rappelle même l'enfant qui était dans les coulisses, qui venait voir. Non, c'était super. Oui. Voilà.
Bien, nous commençons.
Voilà.
Bonjour Jean-Claude Galotta, merci de nous accorder un temps d'interview pour parler de votre travail, de votre compagnie et notamment du spectacle, de la chorégraphie que vous allez présenter à Évreux sur le plateau du Tangram dans la salle du Cadran, en l'occurrence l'homme à tête de chou. Déjà vous présenter Jean-Claude Galotta, même si pour les fidèles de la danse contemporaine en France, vous êtes un nom quand même marquant. Célèbre et qui a sensibilisé, je pense, toute une génération quand même de spectateurs, voire de danseurs à la danse contemporaine. Vous êtes chorégraphe de vous avez votre groupe compagnie Émile Dubois. Et j'avais envie de commencer par vous, Jean-Claude Galotta, et votre travail avec la compagnie. C'est une longue histoire. Et qu'est-ce qui vous amène à faire en sorte de monter des projets qui soient des projets à la fois humains, sensibles et de rencontres. Parlez-nous un peu de votre travail de compagnie.
Oui, alors c'est vrai que moi j'ai commencé, j'étais pas danseur, hein, j'étais étudiant aux Beaux-Arts, donc c'est le dessin en fait qui m'a amené à la danse, et j'ai découvert cet art qui était justement généreux, participatif, créatif, parce que j'étais tout seul face à mes fantasmes de peintre. Et là, tout à coup, j'ai découvert ce qu'était une communauté, travailler avec des gens. Et du coup, j'ai vraiment aimé cette aventure artistique. Donc j'ai appris beaucoup. pour faire en sorte que cette danse devienne aussi artistique, mais aussi sociale, politique, qu'on puisse partager avec des amateurs, avec des anciens, des jeunes, vraiment créer une communauté forte pour essayer de faire bouger les choses dans la vie sociale, en fait.
Mettre la danse et votre parcours artistique au cœur d'une vie, au cœur d'un projet, au cœur de, d'une société,
oui,
peut-être
d'une
aussi.
Ville.
Oui, d'une
même
ville.
D'une ville, puisque je suis resté à Grenoble, je suis grenoblois, et j'ai voulu commencer par là. Et il se trouve que des gens ont vu ce que je faisais depuis Paris, depuis New York, et puis du coup, ça a pris une valeur importante. On est dans les années 80, la gauche arrive au pouvoir, Mitterrand, Jacques Lang, qui décident que finalement, c'est un. Une force incroyable que cette danse moderne qui peut se balader partout sans frontières. Et donc on a une double identité, on montre en fait cette nouvelle danse française, c'est comme ça que les Canadiens ont appelé notre mouvement. Et en même temps, on montre qu'il y a un ministère de la culture et qui aide justement les compagnies, puisque on sera le premier centre chorégraphique national de la danse. Exact. Donc voilà, on avait cette double identité, on s'est baladé dans le monde entier avec cette double identité.
Et avec une rencontre à chaque fois de publics différents dans des lieux, alors avec une assise évidemment sur le territoire de Grenoble, mais avec aussi tout un projet de tournée des chorégraphies, des spectacles que vous présentez à votre répertoire et qui vous permet aussi d'aller à la rencontre bien d'un pays, de publics et d'autres établissements, d'autres théâtres et d'autres territoires. Alors, c'est un long parcours. Aujourd'hui, Jean-Claude Galota et votre groupe, votre compagnie Émile Dubois, c'est quoi aujourd'hui? On continue dans la même verve, dans la même envie, dynamisme de rencontre entre différentes personnes. Je crois que...
Voilà. Oui, absolument. Absolument, c'est-à-dire que donc moi maintenant j'ai dû quitter le centre chorégraphique parce que j'arrivais au terme de mon contrat, donc j'ai passé le centre chorégraphique à d'autres chorégraphes et aujourd'hui je suis une compagnie indépendante, donc j'ai toujours gardé le groupe Émile Dubois parce que c'était l'origine, avant même qu'il y ait le centre chorégraphique, on était groupe Émile Dubois, donc je suis revenu au groupe Émile Dubois et c'est vrai qu'il y a toujours le même enthousiasme. Bon, on n'a pas toujours les mêmes financements parce qu'on est plus dans un centre chorégraphique, mais on a la même participation, on a le même nombre de danseurs, on fait les tournées, moi j'ai toujours la pêche pour créer. Donc voilà, on continue, et notamment avec ce spectacle Ma tête de chou qu'on reprend 10 ans après.
Voilà. Venons-en à l'homme à tête de chou, qui est quand même, je pense, à l'origine, un projet de rencontre. On a quand même trois noms emblématiques autour de ce spectacle. Ma tête de chou, c'est vous, Jean-Claude Galota, Bachung et Gainsbourg. C'est quand même un bel hommage à trois artistes. Voilà, qui ont un parcours majeur. Est-ce que vous pouvez nous raconter le début de cette histoire de rencontre? Comment ça s'est passé?
Alors, on était dans l'ouverture de la nouvelle Maison de la Culture de Grenoble et Bachung était venu faire un concert pour l'ouverture et il voulait déjà que je chorégraphie son concert. Malheureusement, moi, je faisais justement My Rock, préparais My Rock et c'était pas possible pour moi, j'étais triste. Et il m'a simplement dit, on se retrouvera. Et un jour, un producteur est venu avec... L'homme à tête de chou, il avait acheté les droits et il voulait absolument que ça soit fait par un chorégraphe et un chanteur. Et c'est là qu'on s'est retrouvés avec Alain Bachung, il a accepté cette idée et il devait donc chanter sur scène les chansons de Gainsbourg. Et donc on a commencé à travailler avec Denis Clavézol qui était l'arrangeur et on a commencé à préparer tout le spectacle. Et bien sûr, doucement, Bachung s'est éteint. Il avait un cancer et donc il m'a dit qu'il ne pourrait plus faire le spectacle. Donc moi je voulais tout arrêter et lui il m'a dit non, j'ai écouté les bandes, elles sont formidables, tu dois le faire et ça sera mon testament. Donc il m'a passé le relais et on a fait ce spectacle et on a gardé cette chaise où il devait être sur scène pour le symboliser. Et il y a 10 ans, donc on a fait ce spectacle douloureusement parce que il y avait la mort de Bachung qui planait. Et là, on l'a repris 10 ans après parce que c'était l'anniversaire des 10 ans de sa mort et le printemps de Bourges fêtait cet anniversaire et ils nous ont demandé de reprendre ce spectacle. Et là, je l'ai repris avec plaisir parce que il y a eu le deuil et je pouvais un peu profiter de ce spectacle qui avait été trop douloureux à la création, en fait.
Oui, c'est un bel hommage, en fait, aussi, qui se rend à travers, à la fois, ces représentations qui sont données. Et alors, je ne l'ai pas vu dans cette nouvelle version, mais les vidéos, les images que j'ai pu voir m'ont fait sentir quand même une véritable joie. Enfin, quand j'ai vu les danseurs, la fluidité, la générosité, le plaisir, enfin voilà, ce qui s'est dégagé, juste à l'image, hein, de vidéo, c'est quand même un réel plaisir, jouissance, bonheur à danser. Voilà, dans ce qui m'est venu premier abord dans le sentiment, c'était ça. J'ai senti une appropriation directe du danseur sur cette proposition. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que ça a été assez fluide dans l'écriture et dans l'imprégnation de chaque danseur sur cette hommage, cette reprise. Comment ça s'est passé avec vos danseurs?
C'est exactement ce que vous dites, donc ça a été formidable parce que justement il y avait plus ce poids de la mort de Bachung, donc on l'a repris et on s'est rendu compte en fait que j'avais fait vraiment un travail très dynamique, parce que c'est une pièce tragique quand même, c'est une histoire tragique, mais la musique est tellement belle, tellement rythmée, tellement rock, que du coup moi j'ai fait aussi des chorégraphies dans cet esprit. Et c'est vrai que les danseurs, surtout les nouveaux qui n'ont pas connu la période où il y avait la mort de Bachung, eux ils le prennent à bras le corps et vraiment ils s'éclatent avec ces musiques qui sont extraordinaires, même si le propos, et c'est là où moi je trouve intéressant avec la danse, c'est que même si le propos est tragique, donc il y a quand même quelque chose de très profond, c'est pas simplement du divertissement, il y a aussi cette dynamique formidable de danse, de rythme, de joie qui circule et qu'on avait moins à la création, puisqu'il y avait cette douleur de la mort de Bachung qui planait, en fait. Voilà.
Oui, totalement. Et oui, pour revenir sur l'œuvre de l'homme à tête de chou, quand même, qui est un vrai poème, on peut le qualifier de poème lyrique, en fait, de ce personnage de Marie-Lou qui vit quand même une tragédie. Enfin, l'histoire racontée par Gainsbourg est quand même l'histoire d'une femme qui vit quand même quelque chose d'assez profond et douloureux, mais je trouve qu'on a le support de la musique, du texte, de la voix de Bachung qui raconte le sens. Enfin, pour nous spectateurs, on est porté à la fois par la musique, par la danse et par l'histoire. Enfin, ça travaille ensemble dans la construction de la pièce, je suppose, entre.
Oui. Absolument, moi c'est important que la danse elle puisse raconter aussi des choses profondes comme le roman, comme le cinéma, comme la musique, que ça ne soit pas encore une fois qu'une illustration un peu fade. Pour moi c'est important que la danse elle ait des choses à raconter, mais aussi qu'elle garde l'énergie, qu'on ne perd pas l'un pour l'autre. Pour moi c'est important de tout, comme vous dites, de tout mettre ensemble. Et c'est vrai que Gainsbourg il a fait vraiment un hommage à la femme qui est libérée, qui est libre. Mais justement, à l'époque, il voulait dire que c'était difficile parce qu'il y avait encore le machisme, il y avait encore la jalousie. Et son personnage est un peu un anti-héros, un imbécile qui n'a pas compris cette liberté et qui va la tuer. Donc, et il va devenir fou. Donc, c'est vraiment, pour lui, c'était vraiment de rendre Marie-Lou très importante comme la libération de la femme dans sa vie, dans sa vie amoureuse, dans sa vie, voilà, c'est important pour lui de montrer que cette femme avait cette liberté.
Oui, totalement, dans le propos de Gainsbourg, c'est véritablement ça. Et qui parle, enfin c'est quand même bref, sur le parcours du militantisme féminin, je trouvais que voilà, c'est aussi encore aujourd'hui un sujet qui porte, qui fait écho et qui a du sens, totalement. Ouais.
Et en plus, comme Bachung, il avait Gainsbourg, il le fait de manière un peu plus ironique, parce qu'il avait il se disait pas comme un grand chanteur, donc pour lui il a inventé cette façon de chanter, parler, qui était magnifique. Mais Bachung, lui, il l'a rendu plus romantique, en fait. Donc c'est beaucoup plus suave, il essaye de montrer les choses en profondeur, avec un amour. Quand il chante Variation sur Marie-Lou, c'est à pleurer tellement c'est beau. Il a cette voix chaude, il essaye, lui, de passer des sentiments que Gainsbourg, par pudeur, n'osait pas faire, voilà. Alors que Bachung, lui, il a osé aller dans cette façon d'être plus romantique.
Bien. Mais en tout cas, on vous attend vraiment avec impatience. C'est vendredi prochain, vendredi 17 janvier à 20h sur le plateau du Cadran. Et c'est programmé par le Tangramme. Merci beaucoup, Jean-Claude, de nous avoir
merci
accordé. Et puis,
oui.
Bien, voilà, on invite les auditeurs à venir vous voir et voir votre compagnie et ce magnifique spectacle. Merci. Et
merci
bonne
beaucoup.
Tournée.
Oui, oh. Merci à vous.
Au revoir. Revoir.
Je suis l'homme à la tête de chou. Moitié légumes, moitié mec. Feuille de chou, à scandale qui me donnait le beefsteak. J'étais fini, foutu, échec, et mat, aux yeux de Marie-Lou, qui me traînait comme un blanc bec, et me rendait moitié coucou. Ah non, tu peux pas savoir, mec. Il lui fallait des discothèques et bouffer au Kangourou Club. Alors je signais des chèques, sans provision, j'étais fou, fou. À la fin, j'y fis le caillou, comme un melon, une pastèque. Mais, maman, je ne veux pas tout déballer comme ça, aussi sec. Quoi, moi, l'aimer encore? Des clous. Et où suis-je? Chou ici ou dans la blanche écume d'un rec? Sur la plage de Malibu.
L'homme à tête de chou, suite à l'échange qu'a eu Nathalie au micro avec Jean-Claude Galota et l'extrait sonore du spectacle. Nous poursuivons les échanges et nous accueillons avec nous en plateau Alban Legrand, directeur délégué aux musiques actuelles au Tangramme. Bonjour Alban.
Bonjour.
Alors, nous souhaitions aborder la question des résidences. Alors, on va revenir un peu plus tard sur la résidence que vous accueillez actuellement, mais revenir plus largement sur ce qu'est une résidence, comment ça fonctionne et tout ça. En quelques mots, qu'est-ce qu'une résidence?
C'est un temps de travail.
Ah ouais, alors
quelques mots,
quoi.
Vous demandez quelques mots, moi je mets quelques mots.
Non, vous en avez un peu plus quand même. Vous pouvez développer, alors, vous avez le droit de développer.
Imaginez-vous, vous êtes un band, un groupe, et vous partez en tournée.
Ouais, j'imagine voilà. Bien, ouais.
Je m'y vois bien.
Tourbus,
équipe
de malades.
Personnellement, je préfère le camping-car, mais...
C'est un grand camping-car, un tourbus. Et que donc vous partez en tournée, vous avez une, je sais pas, une soixantaine de dates, et qu'il faut préparer ce spectacle parce que du coup vous avez fait la musique, mais un concert c'est pas que la musique, c'est tout ce qui va autour, notamment comment on règle les petits détails sonores, comment on règle les petits détails lumineux, comment, enfin voilà. Et on se pose dans une salle généralement, plutôt une salle bien équipée généralement, et puis on arrive avec tout notre matériel, et puis on travaille pendant, on travaille jour et nuit pendant une semaine, deux semaines, ça dépend du besoin en fait, et puis on va passer notre temps à faire du filage, à préparer les, à voir comment est-ce qu'on enchaîne les morceaux, à voir comment est-ce qu'on se place scéniquement. Donc là, par exemple, pour la résidence de cette semaine, donc Vidéo Club qui joue ce soir, ils étaient en résidence pendant 3 jours, et puis il y avait un coach scénique avec eux, il y avait un scénographe, enfin un coach scénique plus qu'un scénographe. Et ils ont passé leur journée à travailler justement tout cet aspect, donc l'aspect sonore et l'aspect des déplacements sur scène, tout ça.
En fait, il s'agit vraiment d'aller au-delà de l'aspect musical, ouais. Parce que effectivement ce sont des répétitions, mais c'est pas une simple c'est pas une répétition en studio comme on peut faire quand on est sur la création musicale. Là tout d'un coup c'est, on arrive sur la scène, sur le plateau, et qu'est-ce qu'on fait de ce,
c'est ça, qu'est-ce qu'on fait de cet espace là, qu'est-ce que, comment est-ce qu'on le prend, comment est-ce qu'on l'occupe. Après c'est dans le spectacle en général, hein, en théâtre, en danse. Voilà, on a un espace scénique, comment on l'occupe.
Ah oui.
En musique actuelle, musique, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qu'on, là, il y a 2 enfants sur scène. Truc de la musique, c'est que t'es plutôt fixe, hein, parce que généralement t'es derrière un instrument. Donc comment est-ce que t'occupes cet espace scénique?
C'est une création plateau, voilà, en fait.
Ouais. Tout à fait.
Et du coup, on le fait pas tout seul. On fait, quand vous disiez, on y travaille et on bosse, mais on bosse pas tout seul. On bosse avec une équipe, avec justement,
et avec des gens de l'extérieur aussi, voilà, qui viennent et qui ont un œil justement professionnel et extérieur au projet. Parce que dans un projet, quand on est impliqué dans le projet, on ne voit pas tout. On voit pas, on n'arrive pas à se rendre compte des défauts ou des oublis. Parce que on est trop impliqué dans un projet. C'est comme quand on écrit un dossier, par exemple, qu'on rédige un projet, et que du coup on est dans notre projet, on est dans notre phase de rédaction, et on voit nous ce qu'on, enfin voilà, on est omnibulé par la chose, et donc on voit pas ce qu'il y a autour. Et la personne qui est extérieure à ça va arriver avec un œil neuf, et elle va te dire alors là non, ça va pas, là faudrait que tu fasses comme ça, là.
C'est assez drôle parce que moi je trouve que la notion de résidence là, de temps de travail, on l'appréhende presque plus facilement dans la danse ou dans le théâtre ou même dans le cirque. Dans la musique, on en parle peu, alors de plus en plus, mais on a presque l'impression que c'est la création musicale. On arrive sur le plateau et puis on y va, et finalement cet abord de la scène, les musiciens ils le travaillent tout autant que tous les autres artistes des autres disciplines, en fait.
Oui.
Mais on en parle beaucoup moins, finalement, parce que, comme vous le disiez, un musicien, il arrive avec sa musique, il se pose sur la scène, et puis on y va.
Plug and play, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et parce que, oui, c'est pas les mêmes créations. Le spectacle vivant, ça part du plateau, alors que la musique, ça ne part pas du plateau.
Alors, je veux rappeler quand même que les musiques, c'est du spectacle vivant aussi.
Oui. Mais oui, tout à fait.
Mais c'est vrai qu'il y a une catégorisation quand on parle de spectacle vivant, bizarrement. Les musiques actuelles en sont, on les intègre pas forcément, alors que pour le coup, il y a pas plus vivant aussi que la musique. Hein. C'est le même principe, effectivement.
Et qu'un concert en live.
Ouais. Voilà.
Tout à fait.
Ouais.
Moi, je voulais vous demander une petite précision. Là, vous disiez que les équipes arrivent pour investir une salle bien équipée pour pouvoir travailler le spectacle, hein, tout simplement, qui viennent avec des équipes d'accompagnement. Vous évoquiez tout à l'heure un coach qui les encadrait, notamment pour revenir sur Vidéo Club en particulier. Quelle est la place de l'équipe du Tangram, de l'équipe qui reçoit? Est-ce que finalement, c'est une mise à dispo d'un lieu où il y a une interaction entre la structure accueillante et puis le collectif artistique?
Alors, nous, on est là pour accueillir. On n'intervient pas dans les choix artistiques ou dans les ou dans quoi que ce soit. Quoi. On est là vraiment pour accueillir, c'est-à-dire qu'on fournit une salle en ordre de marche et suivant les besoins de l'équipe artistique, on les aide. Mais en aucun cas, on a un regard artistique dans le projet. Quoi. C'est pas nous, on est juste là pour fournir un lieu. Après, il y a des échanges qui se font, forcément, humainement. C'est plutôt cool parce que on arrive à avoir des équipes cool. Vidéo Club par exemple, ils sont très très gentils, ils sont super gentils. On mange ensemble. Là, on avait fait notre repas de nouvelle année, on va dire, parce qu'on n'a pas fait de repas de Noël. Notre repas de nouvelle année mardi, ils sont venus, on a tous mangé ensemble. C'était cool. Et donc c'est en off quoi que les échanges humains ils se font quoi. Mais après, au niveau artistique, on n'a pas à intervenir. Nous, on est vraiment là pour ouvrir la salle, mettre une salle en ordre de marche, et voilà, quoi.
Alors, quelle place ça prend dans un projet de culturel comme le Tangram? Quelle place ça prend, justement, ces résidences, et quels en sont les effets, les allers-retours avec le projet?
Il y a deux choses qu'il faut bien prendre en compte. Là, ce dont on parle, c'est une résidence, c'est un lieu qui est mis à disposition. C'est pas de la location de salle parce qu'on loue pas, on va plus loin que ça, mais on est dans un lieu où, enfin voilà, on met à disposition un lieu, on met notre équipe technique à disposition et ils travaillent. Après, il y a d'autres aspects de la résidence où on va sur la partie des groupes que l'on accompagne, où là on a un projet d'accompagnement qui fait partie intégrante du projet des musiciens amateurs ou en voie de professionnalisation. Ça, c'est une partie du projet. Et là, c'est autre chose. Là, on prend l'artiste et puis on l'emmène sur le plateau. Et là, on travaille avec lui. Parce que là, on n'est pas que, du coup, prestataire de service, mais on a un œil artistique sur le projet et on travaille sur sa carrière. Donc sa carrière, on veut le professionnaliser. On prend l'exemple parfait, c'est gentil de m'avoir invité aujourd'hui parce que l'exemple parfait, c'est ce soir. Ce soir, vous avez deux projets, un projet donc vidéo club, donc pro, qui va tourner, qui va faire tous les festivals d'été, ça va tourner.
C'est un groupe déjà émergé.
Jeune groupe, mais qui, voilà.
Ils ont déjà émergé, quand même.
Et en première partie, on a un groupe que l'on accompagne, un projet sur lequel on a dit banco, on y va. On va mettre toutes nos énergies dessus. Et puis, on va travailler ensemble pour, justement, que ce groupe émerge et suive la trace professionnel et puisse vivre de son projet. Et là, le regard, il est tout autre. Là, on a un œil artistique, on a un œil sur le développement de carrière, sur le projet, qu'est-ce qu'on veut faire et comment on va y arriver. Et on est là justement pour que ce projet qui est émergent, on puisse le mettre en lien avec d'autres structures professionnelles, type label, tourneur, label, maison de disque, tourneur, éditeur, manager, enfin voilà, tous ces gens qui gravitent autour en fait d'un projet musical, et nous on fait la passation en fait, on les amène jusqu'à ce point-là.
Alors là on parle de Calgary en l'occurrence pour ce soir. C'est un groupe qui a déjà eu l'occasion de croiser le chemin du Cube et des structures d'accompagnement régionales, on va dire. Et ça, c'est important, j'imagine, pour un groupe. Là, on parlait tout à l'heure, alors aussi bien pour Vidéo Club, d'avoir un lieu pour pouvoir roder le show et puis pouvoir travailler dans des conditions optimum pour pouvoir proposer un spectacle, en fait, complet. Donc ça, on voit bien. C'est aussi l'importance pour un groupe comme Calgary, un groupe émergent, enfin en tout cas qui avance.
Qui aspire à être professionnel, ouais.
Tout à fait. Et du coup, c'est une autre mission, mais c'est tout aussi important finalement dans le parcours des groupes d'avoir cet accompagnement-là. C'est même nécessaire, j'imagine, pour sortir un peu de la région, notamment.
C'est un des trois piliers du projet. On a donc le premier qui est forcément plus destiné au public dans sa globalité, qui est la diffusion. Le deuxième, enfin, type de public, parce qu'on a plusieurs types de publics, la diffusion, le deuxième qui est vraiment là, l'accompagnement des musiciens amateurs, et le troisième qui est l'éducation artistique et culturelle, et où là, on a aussi un gros boulot, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on pourra en reparler si vous voulez un peu plus tard. Mais, et donc nous, dans notre pilier d'accompagnement des musiciens amateurs ou en voie de professionnalisation, bah voilà, là on doit avancer avec les groupes, on doit être présent, on doit mettre à disposition les outils que nous connaissons parfaitement, que nous maîtrisons, pour permettre au groupe d'avancer et d'avoir une carrière professionnelle.
Parce que en plus, on est quand même dans une époque où effectivement le numérique, Internet, a permis un certain développement. Voilà, qui a d'ailleurs été un peu effrayant au début pour la production musicale. Est-ce que le rôle de structure, justement, comme le Tangram, c'est de permettre à ces groupes émergents, parce que du coup Internet a permis ça aussi, hein, à des groupes plutôt indépendants, des musiciens plus indépendants, bah, d'avoir tout d'un coup être vus en fait sur la place publique, d'avoir une notoriété sur Internet. Et est-ce que c'est aussi un moyen, et c'est le rôle des salles comme le Tangram d'accompagner aussi, d'une certaine façon, ces groupes-là qui vont entrer dans le monde de la musique et du coup de les faire rentrer dans un autre circuit en fait qui soit plus, comment dire. Ça n'a pas l'air très clair.
Non,
je vois votre regard. Désolé. Oui, c'est-à-dire que avant, il y a toujours, mais il y a certaines étapes dans la création musicale qui sont du coup raccourcies avec l'avènement d'Internet, ouais, et les autoproductions, ouais, etc., etc.
Ouais.
Donc ça veut dire aussi que l'artiste, tout talent qu'il est, va sauter certaines étapes,
ouais,
qui sont parfois quand même nécessaire aussi. Et est-ce que une structure comme le Tangram, son rôle aussi, c'est de permettre à ces artistes-là d'aller aussi à la rencontre d'un public d'une autre manière que par l'écran de l'ordinateur, ouais, parce qu'on a dit que la scène, les clips, enfin c'est deux choses qui sont complètement différentes, complémentaires mais différentes. Enfin voilà, comment, ouais, est-ce que
ça y est, j'ai compris.
Voilà, merci Alban.
En fait, la musique, elle a évolué, mais elle n'a pas changé.
Voilà.
Ah, très intéressant. Dites-nous.
Elle est en pleine révolution, quand même.
Ouais, enfin, la révolution, ça fait longtemps qu'on dit que c'est la révolution.
Ah bon.
Depuis qu'Internet est là, on dit que c'est la révolution. Mais c'est vrai que le mode de communication, la méthode, en fait, a changé. La méthode, elle a évolué. Avant, on était un groupe. On rentrait dans les studios, on répétait, et puis après, une fois qu'on avait répété, on enregistrait, et puis après, on faisait la promotion de la musique. Donc, à l'époque, quand il n'y avait pas Internet, c'était la scène et tout, et puis après, il y avait MySpace.
Oui,
souvenez-vous de MySpace.
Ouais, totalement.
Et bon, maintenant, c'est YouTube et tout ça. Mais avant, c'était le cycle normal, et c'était on travaille, et puis après, on monte notre musique. Donc sur scène plus généralement, et donc on allait dans des bars, on allait dans des salles, puis voilà,
on expérimentait,
on faisait au maximum. Maintenant on est dans notre chambre,
on n'est plus dans le studio déjà,
on est dans notre chambre, on produit de la musique parce que les méthodes de captation ont vachement évolué, l'avènement du numérique a fait que tout le monde maintenant peut avoir un studio, c'est-à-dire t'as un ordinateur, une carte son,
t'as un studio.
T'as un studio numérique. Donc déjà le rapport il est complètement différent, c'est que maintenant t'es dans ta chambre et puis tu crées ta musique. Ensuite, une fois que t'as créé ta musique, tu la mets sur Internet. Donc, c'est-à-dire Facebook, Instagram, YouTube, et puis bah maintenant t'as même, si tu vas même encore plus loin, c'est que tu peux la monétiser toi-même, c'est-à-dire que t'as des labels, style iMusician ou Believe, non pas Believe, merde, comment ça s'appelle,
pardon.
Enfin bref, qui te proposent des services où tu peux mettre en ligne sur des plateformes de streaming type Deezer, Spotify, voilà, pour un montant. Et puis du coup, c'est toi, tu mets ta propre maison de disque, du coup. C'est ton propre label. C'est
autoproducteur.
Quoi. Donc, bon, ça c'est une autre étape, mais normalement, tu mets ta musique en ligne. Et puis si ça fonctionne, donc par rapport au nombre de vues, tu rentres en studio, tu te fais repérer, tu rentres en studio, et puis là, tu commences à travailler avec d'autres personnes. Mais tu peux, toi tout seul, avoir ta propre chaîne de distribution et de
production. Voilà,
de production.
Vidéo Club illustre très clairement ce dont vous êtes en train de nous parler. Hein. C'est un groupe qui a émergé avant tout sur les plateformes numériques.
C'est deux ados qu'on sorti de la musique sur Internet. Ça a vachement bien fonctionné. Et puis derrière, il y a eu tout un accompagnement qui a commencé à se faire. Voilà.
Alors, pour un programmateur que vous êtes aussi, en tant que directeur délégué aux musiques actuelles sur le Tangramme, c'est aussi une autre façon de programmer. À une époque, c'était les labels, les maisons d'édition, qui envoyaient des propositions, des tourneurs qui venaient démarcher directement. Aujourd'hui, le boulot a un peu changé aussi pour vous, non? Vous passez vos soirées sur votre ordinateur.
J'ai mal aux yeux. J'ai des filtres bleus, de lumière bleue sur mes lunettes. Ouais, ça a vachement changé. Ça a plus rien à voir. Après, il y a des fois, je regrette un peu le temps. Bon, je l'ai pas beaucoup vécu parce que je suis pas très vieux, mais à une époque où t'es comme au théâtre, quoi. Tu te parcours les scènes et puis tu vas voir des concerts. Maintenant, tu le fais beaucoup moins, même si tu continues à le faire. Mais Internet, c'est assez énorme pour ça, quoi. C'est-à-dire, YouTube, tu regardes le nombre de... Enfin, sur certaines musiques, sur certaines esthétiques, surtout, tu regardes le nombre de millions de vues pour te dire ce qui va fonctionner, ce qui va pas fonctionner, quoi.
Mais ça ouvre un champ plus large aussi. Ça ouvre un champ plus large.
Ah bah, complètement, oui, ça élargit totalement.
Du coup, peut-être que le programmateur, à ce moment-là... se mouille peut-être un peu plus, non? Du coup, c'est des choix plus, pas personnels, mais plus large, quoi, non?
Il y a tellement de choix maintenant,
c'est ça,
que tu peux pas tout prendre, que tu peux pas tout faire. Et donc après, c'est toi, en tant qu'être humain, en tant que programmateur professionnel, de dire quelle ligne tu veux suivre. Voilà. Et c'est hyper important parce que c'est ça qui détermine aussi ce que va être ta salle, quoi. Enfin voilà, ce que va être ta programmation. Est-ce que tu veux rentrer dans le schéma du ça fait je sais pas combien de millions de vues, automatiquement je le prends, ça me dérange pas de mettre beaucoup d'argent mais de toute façon je sais qu'en contrepartie j'aurai beaucoup de monde. Ou est-ce que tu prends le parti de prix de te dire, écoute, moi j'ai pas envie de faire comme tout le monde. Et puis, ok, de temps en temps, j'ai quand même besoin d'avoir des têtes d'affiche, voilà, des noms. Et du coup, je prends le parti pris d'avoir quelques références, mais le reste, c'est de la découverte. Et puis, j'ai envie de présenter aux gens des choses qu'ils auraient peut-être pas vues ou des choses qu'ils ont envie de voir parce que tout le monde n'a pas envie de voir des artistes à 60 millions de vues, tu vois. C'est ça. En fait, il faut...
Alors, je rebondis justement sur l'expertise et votre choix en tant que programmateur dans cette multitude de propositions maintenant sur Internet. Qu'est-ce qui, vous, Alban Legrand, en tant que programmateur en musique actuelle, va faire la différence? Là, je dirais dans le choix artistique. Qu'est-ce qui, dans tout ça, va dire, je vais peut-être plus prendre ça que ça parce que Je trouve que ce groupe-là pourrait peut-être aller dans telle direction. Enfin voilà. Du coup, quand on est devant cette immensité de propositions, la qualité du programmateur artistique, pour vous, elle se situe où? C'est quoi un petit peu les critères qui pourraient affiner et faire la décision? Parce que la qualité, elle se situe où? Mais du coup, on est vraiment dans la notion de programmateur et votre choix.
Alors,
de...
moi, je ne fais pas que des... Enfin, je vais pas que sur YouTube. Je me déplace beaucoup et j'aime beaucoup aller voir des groupes sur scène.
Oui, là. Déjà, non, mais
ça, c'est la première chose.
Je parle dans
c'est très, très important parce que y a maintenant, avec ce que tu peux faire depuis ta maison et puis ce que tu produis réellement sur scène, il y a quand même des grosses différences.
Mais je parle
cadre justement de cette production musicale via Internet.
Alors après, moi, j'ai pris le parti de faire une programmation qui est très variée. Parce que j'estime que un bâtiment, enfin une structure comme le Tangram, ne peut pas être qu'une maison dédiée au rap ou au rock ou aux musiques électroniques. Il doit y avoir des propositions qui doivent être à destination de toute la population du territoire d'Évreux. Après, il y a des choses quand même qui sont présentes et qui sont là historiquement. Du fait, je pense au rock and roll qui est ancré dans l'ADN d'Évreux, mais je pense aussi à toutes les populations qui sont issues des quartiers et qui sont plus dans une culture urbaine, dans une culture on va dire hip-hop rap ou world music, parce qu'il y a énormément de communautés autour dans les Hauts d'Évreux qui sont africaines, qui sont touareg, qui sont, enfin voilà. Et donc il y a tous ces gens là qu'il faut réussir à aller chercher. Et là, ce qui est important, c'est pour moi, hein, après on n'est peut-être pas d'accord avec ce que je pense, mais moi je le pense comme ça, que c'est important d'aller chercher toutes ces personnes là et donc de faire une proposition très variée. Et ça c'est la base. Tout en sachant que on a une histoire, voilà, et puis qu'il y a des populations.
Mais en fait, c'était pas tant le sens de ma question. Bien sûr, sur la diversité, mais c'est sur le parmi tout ça.
Ouais.
Parmi tout ça.
Ouais.
Comment se fait aussi le choix artistiquement qualitatif,
c'est moi qui le décide.
Voilà.
Enfin, voilà, ouais, clairement. Ouais. Voilà. Après. J'espère que les propositions que je formule sont de qualité, mais après c'est voilà, le qualitatif, c'est tu vas le voir sur scène, tu vas te faire ton propre avis, et puis du coup tu choisis pour les autres, hein, voilà, et puis j'espère que du coup ça plaît aux autres, surtout ça. Mais le qualitatif, il est pas subjectif,
voilà.
Mais il est c'est moi qui l'impulse, ouais.
Eh bien justement, dans les choix, revenons à ce soir, c'est comme nous le disions, Calgary et Vidéoclub. Je propose que nous écoutions un extrait de Vidéoclub, parce qu'on en a parlé, mais nos auditeurs ne voient peut-être pas de quoi nous parlons. Puis la musique, ça s'écoute aussi, hein. On peut en parler, mais ça s'écoute. Hein. Voilà, donc écoutons un extrait de Vidéoclub, parce que forcément nous avons pris du retard. Et puis si vous voulez la suite, vous venez ce soir.
Je veux vivre et crier, marcher longtemps dans les rues, observer les gens muets dans la chaleur du soir, les bras nus, me nourrir uniquement de la nuit, de ses défauts et de sa folie, puis recommencer deux jours plus tard, faire ça toute ma vie. Monter en haut des toits, faire des portraits de mes amis, parler à des gens que je connais pas et m'en tirer sans trop d'ennui. Voilà, c'est ça ce que je veux. Des jours avec du soleil et de la pluie. continuer à faire le coup. Je veux pas demander, je veux plus donner raison. Traiter nous de révolter, on écrira des chansons. Je veux plus écouter, je veux pas me poser de questions. La nuit dans les soirées, je continuerai à faire le coup. Je veux pas demander, je veux plus donner raison. Traiter nous de révolter.
Bon, désolé Nathalie, on va t'arrêter de danser. Et c'est ce soir hein, pour la suite du morceau, la suite des morceaux d'ailleurs, et pour assister au spectacle intégralement.
Et puis les gens, ils auront la primeur vu qu'ils sortent de résidence.
Ouais,
oui.
Ben ouais, en plus.
Bon après, je tiens à spécifier que cette résidence était vraiment basée sur le son et le coaching scénique.
Très bien.
Pas les lumières.
Ok.
Nous poursuivons avec un petit zoom quand même sur la fête de la soupe, parce que ça fait plaisir de faire un petit zoom sur la fête de la soupe, et nous aurons un court extrait également. Je vous préviens, on fait que des extraits maintenant. Hein.
Ah, c'est ça?
Ah bon? Ah, on a changé de radio là. On a changé de radio.
Si vous voulez qu'on rediffuse cette émission, faut qu'on rentre dans le format. Sinon, nous punissions nous-mêmes de la rediffusion.
Les règles, le cadre.
Suivons le cadre.
Bah alors.
Effectivement, on se retrouve, on en parlait en intro de cette émission, le rendez-vous de la saison attendu, hein, cette soirée fête de la soupe, où on rappelle le principe, des associations sont présentes au club, dans la petite salle donc du cube, plusieurs associations sont présentes, elles nous proposent diverses soupes. Et nous dégustons tous ensemble les soupes.
Et ça permet de se parler.
Et voilà.
Et on se cause. Et on se rencontre.
Et on se rencontre et on échange et on discute. Voilà, certains viennent même croiser les micros sur le plateau de la radio, présente effectivement sur ce rendez-vous. Et puis après, on se retrouve tous pour digérer, mais pas que, surtout pour écouter et découvrir depuis quelques années, c'est un concert, depuis 3 ans maintenant.
Depuis l'ouverture de...
Donc 4 ans, alors maintenant. Et là, cette année, ce sont les Amazones d'Afrique. Alban, je vous regarde, du coup.
C'est un collectif de chanteuses africaines qui viennent donc parler un peu de ce qu'est la situation de la femme en Afrique. Voilà. Enfin, chanter, du coup.
Eh ben on en écoute un court extrait. Ce morceau-là, c'est les Amazones d'Afrique avec Mamani Keïta, et on écoute ça. Justement, ça fait écho à ce que vous nous disiez.
Toi, tu parles de Burkina. Comment? Qu'est-ce que nous on va dire aujourd'hui au Mali?
Au Mali, c'est chaud.
Attention.
En fait, je pense que dans tous les pays africains, c'est chaud.
Et maintenant, c'est décorrompu.
À partir du moment où ils vont accepter que la femme prend des gros responsabilités dans le monde va changer.
Ouais, mais il faut qu'on fasse
c'est
proche,
pas,
hein,
c'est
pas tout de suite.
C'est pas tout de suite, hein.
Mais
voilà.
ça a un bon tendance quand même.
On peut encore rêver. On est mal barré, mais on va pas lâcher l'affaire.
Les Amazones et les Amazones.
Si c'est Cécile que je vais empêcher de danser, Cécile, nous reprendrons le 31 janvier
l'occasion
de la fête de la soupe. Nous n'aurons pas l'occasion d'aborder l'agenda. Vous avez internet, vous prenez celui de votre voisin avec les clés wifi. Vous irez voir sur les événements. Tout le monde fait ça aujourd'hui. Vous irez voir les événements que vous choisirez vous-même. Nous allons nous quitter avec notre dernière des traditions. oui, d'émission.
Oui, alors la séquence film, ce sera Pedro Almodovar. Et bien là aussi, quel hommage à la femme, aussi à son combat, à son militantisme. C'est une journée cinéma qui vous est proposée ce samedi, le samedi 18 janvier, au Cinépâté, avec, évidemment, c'est une carte blanche Tangram, Pedro Almodovar. Et on part avec l'extrait de Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, un de ses premiers films en 84.
Et on se retrouve le 31 janvier à l'occasion de la fête de la soupe. Ça va être chouette.
Ce sera scène de soupe.
Comme on dit, allez viens.
Allez viens, ça va être bien.
¿Qué quieres que me ponga para cenar?
No sé, lo que quieras.
Quiero ponerme algo que te guste.
Así estás bien.
¿Así? ¿Y con las sortijillas puestas? ¿Quieres que te enseñe el vestido de novia que me he hecho?
¿Es que te vas a casar?
No, es para jugar a la noche de bodas. ¿Tú no sabes jugar a eso?
Bah, eso es cosa de niños.
¿Te gusta disfrazarte?
No.
¡Qué aburridos sois los chicos!
¿Tienes nuevos tebeos de Lola?
Sí, los encontré en el rastro.
¿Me los dejas?
Te los regalo. ¿Qué te parece?
Está chachi.
Me alegro que te guste.
Gracias por los tebeos.
Cuando la tía Cristal se vaya a América, bien que me vais a echar de menos. Yo también os voy a echar de menos a vosotros.